Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Cette semaine, nous pénétrons sous les toits et dans les foyers pour observer au plus près les décisions économiques des ménages. Dans cette série consacrée à l'économie de la famille, je demande d'abord l'enfant. Quelles sont les raisons économiques qui président au choix de procréer ? Comment une décision intime intègre-t-elle des paramètres rationnels à l'échelle du foyer comme à celle de l'État ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Demain, nous tirerons la carte du couple pour explorer le marché de l'amour à l'heure des sites de rencontres. Mercredi, nous tenterons la périlleuse aventure du travail en famille, avant de nous pencher jeudi sur la circulation de l'argent entre les générations. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous parlons aujourd'hui du choix de l'enfant en compagnie de Thomas Baudin, économiste, professeur associé à l'IESSEG et membre de l'Institut de Recherche Économique et Sociale de l'Université de Louvain, en compagnie également d'Hélène Périvier, économiste à l'OFCE Sciences Po et responsable du programme Présage, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous présenter son journal de l'écho. Bonjour Thomas Baudin et Hélène Périvier.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, expliquez-nous peut-être pourquoi ce choix très intime d'avoir ou non un enfant intéresse et depuis longtemps les économistes, Hélène Périvier.
Bah oui, vous l'avez dit, il intéresse les économistes depuis toujours, en fait, parce que c'est une question de population, de démographie, que l'économie s'intéresse aussi, mais pas seulement aux questions de production, que pour produire, il faut du travail et que ce travail vient de la population. Et puis aussi parce que les économistes s'intéressent aussi aux questions de redistribution, de discrimination, d'égalité, égalité femmes-hommes, et que donc toutes ces questions-là sont éminemment importantes pour soulever ces sujets.
Il va y avoir le jalon l'arrivée de la pilule pour justement contrôler les naissances dans les années 1960, mais avant là, Thomas Baudin, ça n'empêche pas les économistes de réfléchir à ces questions de choix de l'enfant.
Oui, tout à fait. Depuis Malthus en 1814, on se pose de grandes questions autour des comportements de fécondité. Et on va s'y intéresser parce qu'on remarque au fil des siècles que tous les grands chocs économiques et sociaux auxquels on a fait face, eh bien, se sont transformés en variation du nombre d'enfants au sein des familles.
Alors expliquez-nous cela, parce que c'est intéressant de se demander si on peut parler ou non, avant l'invention de la contraception, d'un choix réel d'avoir ou non un enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fécondité jusqu'au XVIIIe siècle, Thomas Baudin ?
Alors, jusqu'au XVIIIe siècle et jusqu'à la révolution industrielle, en réalité on ne choisit pas vraiment son nombre d'enfants au sein des familles. Ce que l'on fait pour réguler la fécondité, c'est qu'on se marie plus ou moins tard, on entre plus ou moins tardivement dans la vie familial, et puis il y a le célibat définitif qui servait aussi à réguler les naissances à cette époque. Mais donc au sein des familles, à ce moment-là, une fois qu'on était marié, on remettait cette décision dans les mains de Dieu.
Hélène Périvier.
Oui, modulo quand même toutes les naissances illégitimes, c'est-à-dire que des femmes au 19e siècle qui avaient des enfants illégitimes et qui les avaient à leur charge, c'était hors mariage et bien évidemment le mariage ne régulait pas tout. Il y avait aussi quand même des moyens de contraception, même s'ils étaient peut-être moins efficaces que ceux qu'on a aujourd'hui, mais donc réguler la population, c'est quand même quelque chose aussi qui pouvait se faire. On sait par exemple qu'en France, la transition démographique a été plus précoce, les gens ont fait moins d'enfants plus tôt qu'ailleurs en Europe, donc en partie aussi en régulant cette contraception, enfin en utilisant une contraception empirique.
Alors il y a l'enjeu de la régulation ou l'enjeu au contraire favoriser les naissances et pour les souverains, Thomas Baudin, dans l'ancien régime, il y a une volonté d'encourager les naissances pour une question de quoi ? De prestige, de puissance militaire ?
De puissance militaire, tout à fait, et aussi, on va dire, parce que les enfants à l'époque sont une source de revenus, puisque les enfants travaillaient et que, eh bien, c'était époque, l'enfant n'est pas ce que Becker va appeler plus tard un bien dans lequel on investit, c'est tout simplement une source de revenus et donc on essaie de maximiser leur nombre. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que jusque la révolution industrielle, on a beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'entre eux meurent en fait avant de devenir adultes. Et donc la fécondité nette, qui est juste le nombre d'enfants qui vont survivre jusqu'à l'âge adulte, reste très limitée, il est quasiment aussi limité qu'aujourd'hui en réalité.
Autour de deux enfants par femme.
Tout à fait, tout à fait.
Et alors, c'est un enjeu de puissance militaire, vous l'avez dit, Thomas Bodin, et puis aussi, encourager les naissances, ça permet d'augmenter les ressources fiscales pour les souverains.
Tout à fait. Moyennant tout de même le fait que Malthus nous énonce une loi très importante qui est celle du rendement décroissant des terres. Donc, lorsqu'on avait des chocs économiques très positifs, on avait tendance à avoir plus d'enfants. Mais à la génération suivante, eh bien, la contrainte de pauvreté devenait très forte et donc la base fiscale devenait quand même amoindrie. Donc on espérait cela, mais ça ne fonctionnait pas toujours.
Et comment concrètement on encourage les naissances dans l'Ancien Régime ?
Dans l'Ancien Régime, donc on propose ce qu'on appellerait aujourd'hui des subsides, qui, d'après ce que moi je connais de la littérature, ne fonctionnait pas extrêmement, extrêmement bien. En réalité, c'est vraiment la contrainte de pauvreté qui se desserrait ou qui se resserrait, qui faisait qu'on avait plus ou moins d'enfants.
Et alors ça, c'est une vraie question qui va évoluer dans le temps. Est-ce qu'on a davantage d'enfants quand on s'enrichit ou au contraire quand on s'appauvrit, avec cette idée que les enfants sont une source de richesse ou peuvent l'être? Et alors c'est en 1798 que l'économiste et démographe Thomas Robert Malthus, que vous avez cité, publie son essai sur le principe de population en tant qu'il influe sur le progrès futur de la société. Alors pour lui, il faut limiter les naissances. Pour quelle raison, Thomas Bodin, et dans quel contexte est-ce qu'il élabore sa théorie à la fin du XVIIIe siècle donc ?
Alors, pour Malthus, l'économie, et il avait tout à fait raison, l'économie jusqu'à la révolution industrielle, en fait, fait face à une loi d'Airain, qui est donc, je vous le disais, les rendements décroissants de la terre. Donc, quand on a trop d'individus dans une société, eh bien, les champs deviennent de moins en moins, les champs mis en labour deviennent de moins en moins fertiles, et donc on a de plus en plus de mortalité.
Et dans un contexte de crise frumentaire, d'ailleurs.
Et tout à fait. Et ce qui va se passer là, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un choc positif dans l'économie, eh bien, on va revenir au revenu de subsistance parce qu'on a fait trop d'enfants. Et ce qui est assez drôle, c'est que Malthus publie en 1814, je pense en 1814, la deuxième version de son bouquin, et que c'est pile à ce moment que sa fameuse loi d'Airain, eh bien, se relâche et que la révolution industrielle fait qu'on va rentrer dans un calcul plus rationnel du nombre d'enfants. Les familles vont se mettre à réduire leur fécondité.
Eh bien, je vous propose justement d'écouter Philippe Aguillon nous parler de Malthus.
Malthus, c'est un modèle intéressant parce que c'est un modèle qui cherche à vous expliquer que à la fois il y ait stagnation du PIB par tête jusqu'au 19e siècle et stagnation relative de la population jusqu'au 19e siècle. C'est un modèle qui rationalise ça, d'accord ? La croissance de la population est quelque chose qui se maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les êtres humains et les animaux et les végétaux. C'est que, en gros, d'un côté, ce qui limite la reproduction des animaux et des végétaux, c'est la limitation des ressources. La différence, c'est que les êtres humains peuvent décider de réduire la fertilité ou d'augmenter la fertilité. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est dotés d'intelligence et on peut décider d'être fertile ou d'être moins fertile. Vous voyez ? Plus le niveau par tête est élevé, plus la fertilité est élevée, ou plus la mortalité est faible. Donc, en tout cas, il peut y avoir deux raisons pour lesquelles, dans ce monde-là, la population augmente plus vite quand le PIB par tête est plus élevé. C'est que, d'un côté, on peut décider d'avoir plus d'enfants parce qu'on peut se permettre de les nourrir, et que, par ailleurs, pour plus tard, c'est utile d'avoir des enfants. Et deux, la mortalité, puisqu'il y a une meilleure alimentation, la mortalité baisse. Et les deux facteurs contribuent à une relation positive entre le niveau de vie, entre le PIB par tête et le taux de croissance de la population.
L'économiste Philippe Aguillon, lors d'un cours au Collège de France diffusé en 2016 sur France Culture. Si l'on comprend bien, selon Malthus, plus on s'enrichit, plus on devrait avoir d'enfants. Il y a vraiment l'idée d'une injonction morale, Thomas Bodin ?
Tout à fait. Donc, tout à fait une injonction morale de l'Église. Et donc, une fois qu'on entre dans le mariage, on a le plus d'enfants possible. C'est assez intéressant de voir que les familles qui avaient le plus d'enfants en Europe avant la révolution industrielle étaient les riches familles anglaises, les nobles anglais, qui avaient des taux de fécondité tout à fait comparables aux utérites, qui sont réputés comme étant la population, la peuplade sur la terre qui a le plus fort taux de fécondité dans l'histoire.
Et alors, une réaction peut-être Hélène Périvier sur ce son et sur l'influence des travaux de Malthus ?
Oui, peut-être pour dire quand même que les recommandations de Malthus ne valent pas pour les pauvres comme pour les riches. C'est-à-dire qu'il est quand même très opposé aux lois sur les pauvres, avec cette idée qu'il faut que les pauvres fassent moins d'enfants, parce qu'il y a quand même une idée de reproduction sociale aussi derrière, et que donc si on leur donne de l'argent, on aura donc plus de pauvres. Cette idée va d'ailleurs être reprise dans l'ère thatchérienne anglaise au XXe siècle. Donc c'est aussi une vision extrêmement normative de qui doit avoir des enfants. C'est pas seulement, il y a des moments où on peut en avoir, des moments où on n'a pas. Donc il y a vraiment aussi aussi une idée de les pauvres doivent pouvoir réguler leur population. Les hommes, d'ailleurs, c'est très sexué, les hommes doivent avoir les enfants qu'ils sont capables d'assumer. Et s'ils n'en sont pas capables, ben, tant pis que leurs enfants meurent de faim, ça n'est pas un problème collectif.
Donc concrètement, il enjoint les jeunes célibataires à ne pas se marier si jamais ils n'ont pas les ressources suffisantes pour avoir des enfants.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est assez rigolo de noter un parallèle avec un discours récemment de Nicolas Sarkozy qui demandait aux pays en développement et aux pays d'Afrique subsaharienne de limiter et d'accélérer leur transition démographique. C'est le même type d'injonction qu'il aurait demandé, qui est tout aussi inacceptable aujourd'hui.
Et alors, vous l'avez dit, Thomas Baudin, c'est avec la révolution industrielle que l'on va assister à un mouvement de plus en plus important de contrôle des naissances chez les couples en Europe.
Tout à fait. Et finalement, ça ne vient pas de l'injonction morale, ça ne vient pas de l'État. En réalité, au moment de la révolution industrielle, quelques grandes innovations se développent en Europe du Nord, au Nord-Ouest, en Angleterre principalement. Et ceci incite les firmes, donc les entreprises, à offrir des salaires élevés pour les personnels qualifiés. Et donc les familles font face en fait à un choix qui est nouveau, qui est de éduquer leurs enfants pour qu'ils puissent demain bénéficier de ce progrès technique et d'être plus riches tout simplement. Et face à ce choix, il faut adopter une stratégie. L'éducation, c'est très cher à l'époque, et donc la seule stratégie qu'ils aient pu adopter à l'époque, c'est de réduire le nombre d'enfants. Et on a là quelque chose d'absolument essentiel, puisque on se met à accumuler du capital humain, on entre dans l'ère de la croissance potentiellement perpétuel en Europe de l'Ouest.
Donc le capital humain, c'est investir dans l'éducation des enfants.
Dans l'éducation, dans leur santé, tout à fait. Et on a là, donc c'est la première grande révolution depuis le néolithique, qui est donc l'apparition de la croissance économique, et la seconde qui est la transition démographique, puisque on fait moins d'enfants pour pouvoir leur investir plus dans les enfants, et donc on baisse notre fécondité, et on a une baisse conjointe de la mortalité de la fécondité qui apparaît en Angleterre, en France, en Belgique et partout en Europe.
Et puis il y a un autre phénomène peut-être qui intervient, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de lois de protection de l'enfance qui sont votées, donc c'est de moins en moins intéressant rationnellement, si je puis dire, d'avoir des enfants, puisque de toute façon ils ne peuvent plus travailler.
Tout à fait, même si j'ai envie de dire que ces lois, encore une fois, c'est sûrement l'expression d'une volonté populaire, et qu'en fait elles viennent après le mouvement, enfin conjointement peut-être avec le mouvement d'éducation des enfants. C'est parce qu'on trouve ça rentable d'éduquer les enfants qu'on va être favorable à des lois qui protègent les enfants et qui empêchent le travail des enfants, ce qui est une clé évidemment du développement.
Donc ce qu'on comprend bien ici, Hélène Périvier, c'est que c'est le progrès technique et la modernisation de l'économie qui vont entraîner un changement de comportement et une diminution de la fécondité.
Je pense qu'il y a aussi une modification de la solidarité qui passe d'une solidarité intergénérationnelle privée qui était beaucoup au sein de la famille. On avait des enfants, on s'en occupait bien. Il y a aussi quand même aussi de l'amour aussi dans ces familles-là. Il n'y avait pas que un calcul économique. Et puis à terme, les enfants s'occupaient des parents lorsqu'ils ne pouvaient plus travailler. Avec, le choc qu'a été la révolution industrielle, l'exode rural, toute cette solidarité s'est un petit peu délitée. Donc il y a eu aussi des nouvelles formes d'organisation, en particulier l'émergence progressive des états sociaux qui organisent une nouvelle forme de solidarité, elle, beaucoup plus en termes de classe sociale, donc une solidarité collective. Et donc, les arbitrages sont certainement différents. Donc ça a dû jouer aussi. Donc c'est vraiment une transition un peu multifactorielle d'un état, d'une société beaucoup plus fondée sur la famille, la solidarité privée, à une société comme on l'a dit, avec une croissance économique plus importante, mais aussi qui se dote de lois et de politiques publiques qui viennent accompagner ce mouvement.
Et ce contrôle des naissances va prendre une toute autre ampleur avec l'invention de la pilule autorisée en France en 1967. Je vous propose d'écouter un reportage 10 ans plus tard, réalisé par la première chaîne de télévision française.
Malgré les freinages qui ont eu lieu, puisqu'il fallait sortir des décrets d'application, et là on s'est battu comme des chiens pour pouvoir arracher à l'administration, qui était plutôt réticente, ces décrets d'application, des milliers et des milliers de mouvements d'informations, de centres, d'antennes d'information se sont créés. L'État, pour sa part, a créé 370 centres, environ 350 établissements d'information avec des antennes un peu partout, ce qui fait que des milliers de permanences existent grâce à des mouvements très différents.
À quel âge avez-vous commencé à employer des moyens contraceptifs ?
J'ai eu l'autorisation de mes parents à l'âge de 17 ans.
Et il y a longtemps de cela ?
J'ai 21 ans.
Vous n'avez pas craint les effets de ces méthodes ?
Pas du tout, je suis 100% pour, j'ai tout à fait confiance.
Est-ce que vous souhaitez par la suite avoir des enfants ?
Bien sûr.
La contraception est faite pour permettre d'avoir des enfants au moment où on peut les avoir. Autrement dit, il faut préparer le berceau avant de réclamer l'enfant.
Lucien Neuwirth, l'homme qui a fait voter la loi sur la contraception orale, et le témoignage d'une jeune fille de 21 ans. En 10 ans, on est passé déjà de 60 000 femmes prenant la pilule à 2 600 000. Il y a vraiment une révolution qui est en marche, Hélène Périvier.
Oui, il y a une révolution, mais d'abord, c'est d'abord une révolution du contrôle des femmes sur leur corps. C'est la possibilité de choisir quand elles veulent un enfant et si elles veulent un enfant, ce qui n'est pas encore une injonction tout à fait admise en France. Juste pour revenir avant, quand même, il y en a eu quand même, on a parlé de Malthus, mais les politiques publiques, elles étaient extrêmement pronatalistes dans toute la première moitié du XXe siècle, en particulier en France, et peut-être on en reparlera, mais encore aujourd'hui, dans la politique familiale française, il y a encore beaucoup de reliquats de cette injonction à avoir 3 enfants ou plus. Et donc, avant l'introduction de la pilule, il y avait tout un ensemble de dispositifs qui venaient encourager, solvabiliser la possibilité d'avoir plusieurs enfants, avec un modèle aussi où madame devait rester au foyer. Donc, un modèle très fort d'assujettissement des femmes. Donc là, ce qui se passe au milieu du XXe siècle, c'est non seulement la possibilité pour elles de décider si et quand elles veulent un enfant, et puis ensuite, bien sûr, les droits qu'elles vont pouvoir acquérir au fur et à mesure, en particulier les droits économiques, accès au marché du travail, égalité salariale, même si on est encore très loin du compte.
C'est important, effectivement, de revenir au contexte des années 30, au moment où la politique familiale, en tant que telle, apparaît véritablement. Hélène Périvier, dans quel contexte, justement, et sous quelles influences idéologiques apparaît-elle ?
Elle très clairement, avec cette idée que la population française, donc qui encore une fois a connu une transition démographique précoce, donc il y a une espèce de trauma politique en France, on aurait perdu la guerre de 1870 parce que notre population était trop faible, on a été mis en danger en 1914 pour les mêmes raisons, donc on a parlé tout à l'heure de la puissance des monarques avec une population abondante, mais c'est encore le cas au début du XXe siècle, donc il y a l'idée qu'une puissance d'une nation se mesure beaucoup à l'aune de sa natalité. Il y a aussi quelque chose de très racialisé derrière, parce que c'est vrai que la France promeut la natalité des familles françaises blanches, alors qu'en même temps, on verra qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place, notamment à La Réunion, dans lequel on n'encourage pas du tout les femmes à avoir des enfants, voire au contraire, on a plutôt une politique de restriction. Donc c'est intéressant de voir que c'est très racialisé aussi. Donc il y a une connotation derrière cette politique nataliste qui est aussi extrêmement nationaliste, d'une certaine façon, et donc avec une volonté assez forte de dynamiser les familles nombreuses avec une femme qui ne travaille pas et un homme qui est gagne-pain.
Et parmi les influences idéologiques, on peut recenser 2 courants, l'un qui est plutôt nataliste et l'autre qui est plutôt familialiste, c'est-à-dire ce 2e courant considère que la famille, c'est une institution à protéger avec un poids important de la religion, Hélène Périvier.
Mais en France, les deux vont de pair, parce que le modèle, alors aux États-Unis, on pourrait parler plutôt d'un état social maternaliste qui protège la fonction de maternité des femmes avec des aides, par exemple, aux mères isolées. En France, les aides aux mères isolées, elles vont arriver que dans les années 70. Donc quand on pense la politique familiale, on la pense à partir du couple marié dans lequel on estime que les gens vont se marier puis vont avoir beaucoup d'enfants en faisant le pari que si madame ne travaille pas, elle aura beaucoup plus d'enfants. On va voir ensuite, ça a évidemment beaucoup changé, mais c'est quand même un modèle nataliste et familialiste.
Cette diminution des naissances que l'on va observer, elle est aussi liée, Thomas Baudin, à ce recul de la religion qu'on va constater tout au long du XXe siècle.
Tout à fait. Il est clair que l'injonction d'avoir des enfants est aussi très religieuse aux alentours du 18e, 19e siècle et même avant. Et donc le recul du religieux va aussi donner plus d'espace de choix aux couples, aux femmes et aux couples de manière plus générale. Et donc le recul de la religion va faire, et de la religiosité va faire qu'on aura moins, on aura la liberté de faire moins d'enfants. Ce qui fait qu'après on ait moins d'enfants, ce sont aussi les incitants économiques et l'état de nos sociétés en général.
Et alors justement, on arrive à cette révolution de la contraception, et c'est dans ce contexte que vont émerger les théories de l'économiste américain Gary Becker quelques années plus tard. Gary Becker qui est considéré comme le père de l'économie de la famille, et il va tenter d'expliquer pourquoi, contrairement à ce que disait Malthus, l'augmentation des revenus s'est accompagnée dans les pays développés d'une baisse de la fécondité, Hélène Périvier.
Oui, alors d'abord, moi je dirais pas que Gary Becker c'est le père de l'économie de la famille. C'est très injuste pour tous les économistes, en particulier les femmes, qui ont travaillé sur la question de la famille avant, notamment Margaret Mead dans les années 30, qui a fait une thèse sur le travail domestique. Donc on lui donne tout le crédit d'un champ qui était déjà là. Et il a eu un peu, du coup, cette intuition de pouvoir parler du marché du mariage, de la famille, etc.
D'ailleurs, c'est important de le souligner.
Oui, c'est important de le souligner. Par ailleurs, il a été beaucoup critiqué parce qu'une partie de ses approches ont été réfutées par les données. Donc on en parle beaucoup aussi parce qu'on sait qu'une partie de ses modèles n'était pas n'avait pas un caractère prédictif très 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 fort en tout cas. Donc en revanche, c'est vrai qu'il a cette capacité à ouvrir des boîtes sur lesquelles on voulait plus trop regarder, en particulier sur cette question de la famille, et dans lequel il va essayer d'expliquer que l'investissement dans l'enfant est clairement différent. Lui, il utilise toujours la rhétorique autour de l'analyse coût-bénéfice. Donc on va pouvoir investir dans peu d'enfants ou dans beaucoup d'enfants en fonction de son revenu. Donc c'est toujours cette analyse-là qui va mobiliser pour expliquer la décision, et en particulier ici la décision d'avoir des enfants.
Et bien on va écouter une lecture de son traité sur la famille qui est paru en 1981.
Chaque famille doit définir non seulement le nombre d'enfants qu'elle veut, mais aussi le volume des dépenses qu'elle leur consacrera. Donnera-t-on une chambre particulière à chaque enfant? Les enverra-t-on à l'école maternelle? Les inscrira-t-on dans un collège privé? Leur donnera-t-on des cours de danse ou de musique, etc. J'appellerai enfants de qualité supérieure ce qui coûte cher. Tout comme on estime que les Cadillacs sont des voitures de qualité supérieure aux Chevrolet. Pour éviter tout malentendu, je m'empresse d'ajouter que de qualité supérieure ne signifie pas moralement meilleure. Si les parents dépensent volontairement plus d'argent en faveur d'un enfant que d'un autre, c'est parce qu'ils retirent une utilité supplémentaire de cette dépense supplémentaire. Et c'est ce supplément d'utilité que nous appelons qualité supérieure.
Hélène Périvier, que vous inspire ce texte de Gary Becker, lu ici par Romain de Bec-de-Lièvre, le fait de penser l'enfant comme un bien de consommation?
Alors, peut-être que là, pour le coup, je vais un peu nuancer, non pas pour le défendre, mais peut-être dire que c'est assez intéressant d'introduire l'idée, quand il parle d'utilité, il en parle assez mal, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on retire du bien-être à vivre avec ses enfants. Et que ça, on peut pas trop le quantifier. Et si on parle du coût de l'enfant, simplement en regardant les dépenses qu'on a versus ce qui pourrait nous rapporter dans le futur, on se trompe un peu, parce que bien sûr, la raison pour laquelle les gens ont des enfants, c'est aussi parce que voilà, on veut partir en vacances avec eux et que tout ça, ça procure du plaisir, du bien-être. Donc cette partie-là, elle est plutôt intéressante de ce point de vue-là. Après, on peut revoir un petit peu la façon dont il voit la famille, parce que sous couvert d'un modèle formalisé extrêmement bien rodé, il y a beaucoup de normatifs dans l'approche de Becker. D'abord, il y a l'idée que le père de famille est altruiste, qui va prendre soin de l'ensemble des membres de sa famille, que comme il va procéder à des réallocations au sein de la famille, tout le monde va se comporter de façon altruiste, puisqu'in fine, de toute façon, il y aura une redistribution à la fin, ce qui va l'amener à conduire à un modèle de décision dans lequel il y a une fonction d'utilité pour la famille, ce qui est complètement contraire au postulat idéologique de départ de Becker, qui est l'individualisme méthodologique, qui veut que chaque individu ait sa propre fonction d'utilité. Donc il va quand même prendre des libertés théoriques. Je voudrais juste rappeler que Becker ne fait absolument aucune application empirique, donc il ne teste jamais ses modèles sur données, et que quand on va les tester, on va se rendre compte qu'il n'y a pas une parfaite mise en commun des ressources, que cette fonction d'utilité commune, elle ne reflète pas la réalité et ne permet pas de prévoir les décisions que font les agents.
On retrouve chez Gary Becker cette approche d'un individu purement rationnel qui caractérise la théorie économique classique ou néoclassique, Thomas Bodin.
Je crois que Becker, il faut un peu le lien entre les lignes, c'est que Becker est un peu provocateur et bravache. Donc, il va présenter les enfants comme un bien de consommation durable. Il va nous dire que leur qualité, leur quantité rentrent dans la fonction d'utilité. Une fois qu'il a bien choqué tout le monde, en fait, ce qu'il nous raconte, c'est que le désir d'enfant n'est pas le même chez tous les individus. C'est ce qu'on appelle les préférences. On ne les explique pas. Ces préférences, elles sont là. On est tous plus ou moins une volonté d'en avoir en dehors de toute contrainte économique et sociale. Et après, ce qu'il essaie de nous dire d'un point de vue très théorique, pour le coup, parce qu'effectivement, il n'essaie pas de valider avec des données, il ne pouvait pas à l'époque puisque les données étaient très parcellaires et les moyens de les traiter encore plus. Donc ce qu'il essaie de nous dire, c'est, voilà, étant donné notre désir d'enfant, eh bien, les chocs économiques et sociaux, les variations de nos revenus, eh bien, vont faire qu'on va adapter notre désir d'enfant à la réalité économique. Mmh. Alors oui, il présente ça comme un modèle de décision purement rationnelle. En réalité, aujourd'hui, quand on pense justement cette fonction d'utilité unique du père de famille, en tout cas du chef de ménage, tout cela a été remis évidemment en question, a été étendu, il a ouvert le champ. Par exemple, Pierre-André Capori, lui nous dit que effectivement, l'homme et la femme n'ont pas la même fonction. N'ont pas le même objectif l'un et l'autre, et que effectivement ils peuvent avoir à négocier, et que le pouvoir de négociation de l'homme et de la femme au sein du ménage est un déterminant fondamentale des choix de fécondité.
Mais alors c'est peut-être le problème de cette unité de mesure qui est le ménage, c'est-à-dire qu'elle exclut le fait qu'il y a des intérêts divergents de l'homme et de la femme, Hélène Périvier.
Oui, ça c'est une très grosse difficulté, à la fois théorique et puis à la fois empirique, et à la fois pour la construction des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a des individus qui vivent ensemble. Quand on vit ensemble, on a des économies d'échelle à la vie ensemble. On double pas la taille de son logement quand on se met en couple. On n'a pas besoin de deux frigidaires. Donc on n'a pas besoin de doubler le revenu pour avoir un niveau de vie équivalent. Et donc on a beaucoup de difficultés à extraire le niveau de vie de l'individu au sein de ce mini-groupe qu'est la famille. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Aujourd'hui on le fait en utilisant les échelles d'équivalence qui permettent de se ramener à un équivalent adulte, ce qu'on appelle des unités de consommation. Donc on va dire que le premier adulte vaut 1, le deuxième adulte vaut 0,5. Donc autrement dit, un couple c'est 1,5 unités de consommation. Et puis on va rajouter 0,3 par enfant. Mais en même temps, quand on dit ça, on attribue à chaque individu le niveau de vie moyen du ménage, ce qui n'est pas forcément exact. C'est-à-dire dans le ménage, il y a aussi des pouvoirs, des rapports de force. Il peut y avoir des parents qui se sacrifient pour leurs enfants, qui font qu'ils aient un niveau de vie plus faible que leur enfant. Donc tout ça est extrêmement compliqué.
Et donc les calculs sont limités pour expliquer parfaitement la situation économique des foyers. Ce qu'a apporté peut-être Gary Becker, c'est cette information selon laquelle, alors lui en tout cas c'est son point de vue, les enfants coûteraient plus cher aux riches qu'aux pauvres, notamment à cause du renoncement à la carrière que le fait d'avoir des enfants peut impliquer, Hélène Périvier.
Oui, mais en même temps, dans le modèle de Gary Becker, et c'est une des forces de ce modèle-là aussi, il y a l'idée qu'on ne peut pas mesurer le bien-être que retirent les parents à être avec leur enfant. Donc par exemple, vous allez pouvoir dire, et c'est aussi un problème aussi de la façon dont on pense les politiques publiques et de cette fameuse équité horizontale. C'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir prendre en compte le coût de l'enfant pour qu'avoir un enfant ne pèse pas sur le niveau de vie. Ce qui est très horizontal, c'est-à-dire qu'un enfant de couple cadre, les cadres doivent aussi pouvoir avoir maintenir leur niveau de vie même s'ils ont un enfant. Mais du coup, c'est-à-dire que vous devez subventionner, entre guillemets, d'une certaine façon, les vacances au ski, alors que les vacances au ski, on y va aussi parce que ça nous fait plaisir d'aller avec ses enfants. Donc, il y a aussi des économistes comme Robert Pollack ou d'autres qui ont apporté des raffinements, en tout cas cette théorie, pour dire que voilà, la question de l'utilité qu'on retire ou du bien-être qu'on retire au fait d'avoir des enfants, ça permet d'avoir une vision un tout petit peu plus précise de ce que peut être le coût, entre guillemets, de l'enfant.
On va voir dans un instant comment ces politiques familiales ont évolué dans la seconde moitié du XXe siècle et l'impact réel qu'elles ont eu sur la fécondité en France.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Roquigny. Kids, 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 I don't want no kids, kids, I don't want no kids, they cry at night, they smell so bad, no, I don't want kids, kids, I don't want no, 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 a house, a house, a house, a house, a house, I don't want no house, house, I don't want no house, I'll lose my keys, I don't want any of them credits, I don't want no house, house, I don't want no, 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 no,
I don't want no kids, chante Lily Wood and the Pricks sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Thomas Baudin et Hélène Périvier sont toujours avec nous pour parler entre autres de la rationalité économique qui se dissimule derrière le choix de mettre au monde un enfant. C'est notamment ce qu'ont apporté les travaux de Gary Becker. Mais alors, quelles sont les critiques qu'on peut adresser à cet économiste selon vous, Hélène Périvier, et en quoi les travaux qui lui ont succédé sont-ils intéressants dans le fait notamment d'intégrer des paramètres plus sociologiques dans cette décision de l'enfant?
Alors d'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, son modèle suppose qu'il y a une fonction d'utilité pour l'ensemble de la famille. Donc il n'y a plus cette idée de fonction d'utilité individuelle, alors que, encore une fois, le modèle dit néoclassique sur lequel repose Gary Becker est un modèle dans lequel chaque individu sait mieux que personne ce qui est bien pour lui. Or là, il nous propose un modèle dans lequel, c'est-à-dire une des raisons pour lesquelles il va être beaucoup critiqué, notamment par Pierre-André Capori aussi, mais cette idée que voilà, il y a un chef de famille qui va maximiser la fonction d'utilité du ménage, et donc on va pouvoir, à partir de là, en déduire un certain nombre de décisions. Il y a la question du nombre d'enfants, il y a la question de qui travaille où. Donc il va montrer que le modèle de spécialisation des couples est le modèle le plus efficace. Alors c'est intéressant parce que d'un point de vue théorique, il arrive à montrer que la spécialisation est un modèle efficace. Par contre, ce qu'il n'arrive pas à montrer, c'est pourquoi elle est sexuée, c'est pourquoi c'est aux femmes. Donc comme il n'arrive pas à le montrer, dans son traité sur la famille, il va dire bah parce qu'en fait biologiquement les femmes ont un avantage comparatif à la production de
Qu'est-ce que ça signifie?
Mais ça signifie qu'en fait son modèle nous dit lorsqu'un individu dans le couple a un avantage comparatif à l'une des productions, qu'elle soit marchande ou domestique, alors il va y avoir une spécialisation. Donc lui, comme il observe que ce sont plutôt les femmes qui travaillent pas, il essaye d'expliquer ce côté sexué, mais comme il n'a rien dans son modèle théorique qui peut l'expliquer, il va dire bah parce que les femmes sont enceintes, elles sont biologiquement différentes des hommes, elles restent à la maison, elles font mieux le travail domestique. Il va jusqu'à un certain point, c'est qu'il pousse dans son traité sur la famille à dire bah du coup les couples de même sexe sont moins efficaces. S'il n'y a pas cette différence de sexe dans un couple, on est forcément moins efficace. C'est profondément essentialiste, même si Becker ne dit pas qu'il est un économiste essentialiste, il est clairement pas un économiste féministe parce que c'est difficile à assumer de ce point de vue-là. Mais donc son modèle explique que partiellement, il nous laisse en fait au milieu du guet au moment où on aimerait bien qu'il nous explique la chose qui nous intéresse, qui est pourquoi il y a tant d'inégalités femmes-hommes dans ce modèle de la famille et ces questions d'enfants dont nous parlons aujourd'hui.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir par exemple les travaux de Richard Esterlin qui nous montre que le revenu relatif, ce que lui appelle le revenu relatif du couple, dépend de la socialisation des individus. Qu'est-ce que ça signifie ça, Thomas Bodin?
Alors, Esterlin, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il critique Becker en disant voilà, alors, il va pas du côté justement de la négociation au sein du couple et de l'allocation optimale au sein du couple. Lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, il y a des enjeux sociaux autour de la fécondité, que la famille s'inscrit dans un cadre social, dans un cadre culturel, et que ce cadre culturel compte beaucoup, mais qu'il est lui-même évolutif au fil du temps. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que de cette théorie relativement vague quand même d'Esterlin qui généralise Becker, il en tire une prédiction qui est que si vos parents ont vécu dans l'opulence, vous voudrez, pour avoir autant d'enfants qu'eux, que vos enfants vivent dans la même opulence. Et donc on a un comportement adaptatif de génération en génération. Il y a une transmission intergénérationnelle des comportements. Alors le truc, c'est que Esterlin, ses prédictions sont relativement peu confirmées par les données historiques. J'aimerais bien revenir juste une toute petite seconde sur les travaux de Becker, parce bien que sûr. Si on voulait finalement résumer les deux, trois grandes prédictions de Becker, on dirait quand même que la fécondité diminue avec le revenu et le statut social, c'est quelque chose qu'on valide quand même dans les données. On arrive à le voir. Évidemment, toute chose étant égale par ailleurs, à aspiration égale, à religiosité égale, mais on voit bien cet effet négatif quand même des salaires, puisque c'est bien un coût d'opportunité. Donc ça, on le valide beaucoup moins du côté d'Esterlin, mais au final, Esterlin et Becker se sont beaucoup chamaillés, mais il était assez d'accord, finalement. Il y a bien un modèle de choix rationnel qui est contraint par un ensemble de règles. Becker ne voulait pas les expliquer. Esterlin, lui, souhaitait les expliquer et les inclure dans un grand modèle.
Et alors, face à cette baisse de la fécondité, les pouvoirs publics vont réagir, ont commencé à parler des politiques natalistes des années 30 auparavant. Et il y a aussi la crainte du vieillissement de la population qui apparaît, notamment avec l'ouvrage de Robert Debré et Alfred Sauvy en 1946, des Français pour la France. Et donc il y a une volonté étatique, Hélène Périvier, pour relancer la natalité.
Oui, alors elle existe, elle est plus ancrée que ça, mais oui, et tout à fait, on voit très bien se dessiner des politiques familialistes et natalistes en France, qui vont venir encourager surtout cette marge du troisième enfant. Et vraiment, alors que finalement, en termes de coûts, parce qu'une des explications va être beaucoup le troisième enfant coûte plus cher que les autres, ce qui en fait, dans les données, pas du tout, ne ressort pas du tout. Donc c'est vraiment une espèce d'image politique qu'on a utilisée en se disant, voilà, ils en font trois, puis après ils en font peut-être quatre. peut-être. Et puis surtout, avec cette idée que tous les pays européens n'ont pas fait ce choix-là, en particulier la Suède, mais cette idée qu'il faut avoir un couple très spécialisé, donc une femme qui reste à la maison, qui va pouvoir s'occuper des enfants, avec des politiques publiques très orientées là-dessus, notamment la fameuse allocation salaire unique, hein, qui venait compenser le fait que madame ne travaillait pas, donc le salaire unique c'est celui du mari, et puis madame restant à la maison pour s'occuper des enfants, cette allocation elle pouvait croître et elle pouvait être assez substantielle, et donc elle incitait les gens, elle venait aussi solvabiliser ce modèle, parce qu'il faut quand même voir qu'avant les politiques publiques, la plupart des gens dans les couples, les deux devaient travailler, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un seul salaire. Donc c'est vraiment ce qu'a fait ces politiques natalistes, c'est vraiment encourager ce couple marié à faire beaucoup d'enfants.
Et alors justement, vous parlez des mesures adoptées pour encourager les familles à avoir un troisième enfant, je vous propose d'écouter cela.
Il faut aujourd'hui assurer le moyen de renouveler nos générations, ce qui n'est pas le cas et ce qui pose de gros problèmes, vous savez, notamment en matière de retraite. Donc nous avons ciblé un certain nombre d'efforts sur le troisième enfant et sur les familles nombreuses. On prend un certain nombre d'engagements qui vont bien sûr obliger à une remise à jour des allocations familiales, mais tout le monde vous dira qu'il y a un certain nombre d'allocations qui aujourd'hui doivent être mises à jour, car il y a un maquis absolument incompréhensible et qu'il faut pouvoir donner aux familles les allocations qui les aident réellement.
Au-delà de la politique à caractère démographique et nataliste, qui est un choix du gouvernement auquel nous ne sommes pas insensibles, c'est qu'au-delà de la politique du troisième enfant, il est nécessaire également de maintenir et d'amplifier une politique familiale globale et ne pas oublier que pour que le troisième enfant vienne, il est nécessaire que le premier et le deuxième aient été vécus dans le bonheur par les couples.
Michel Barzac, ministre de la Santé et de la Famille en 1986, suivi de Jacques Bonafou, membre du syndicat Union des associations familiales. La question qu'on peut se poser à l'écoute de ce son, Hélène Périvier, c'est l'impact réel de ces politiques familiales sur la fécondité. Qu'est-ce qu'on peut en dire en France ?
Mais en fait, c'est compliqué. Parce que c'est pas si facile pour les économistes d'identifier cet effet causal. En plus, c'est tout un ensemble de politiques publiques. C'est pas une politique publique, c'est la demi-part supplémentaire au troisième enfant. C'est le congé parental dont on pourrait reparler. C'est les allocations familiales qui sont majorées au troisième enfant. Il n'y en a pas au premier enfant. On est le seul pays européen à avoir un modèle comme ça. Donc, c'est tout un ensemble de politiques familiales, plus tous les autres facteurs dont on a vu qui sont extrêmement complexes, de déterminants de la fécondité. Ça peut être l'état de la récession ou l'état du marché du travail. Il y a tout un ensemble de choses. Donc, les économistes, c'est pas très facile pour eux d'identifier ce qui fait le poids de la politique familiale. Il y a quelques études. Par exemple, Camille Landais a fait un travail sur les demi-parts supplémentaires accordées en termes de quotient familial. Est-ce que ça a eu un impact sur les comportements de fécondité, apparemment un petit peu, légèrement, c'est pas massif. Le congé parental, Thomas Piketty avait fait une évaluation qui avait montré que l'extension 94 au deuxième enfant avait eu un petit effet positif sur la fécondité. C'est pas massif non plus. Donc il y a en plus derrière la fécondité des effets de calendrier extrêmement compliqués à mesurer. Tout d'un coup, les femmes peuvent repousser l'âge au premier enfant, au deuxième, au troisième, ce qui fait qu'on a l'impression que ça chute, mais en fait c'est juste un report. Tout ça donc est assez complexe. Donc je dirais que il y a aussi des pays dans lesquels il y a une politique familiale pas du tout généreuse et pourtant il y a des taux de fertilité très élevés, enfin assez élevés, les États-Unis par exemple.
Mais dans le cas de la France, on estime que la politique familiale est généreuse et que c'est peut-être en lien avec le fait que le taux de fécondité est élevé en France par rapport aux autres pays européens, même s'il faut quand même préciser que ça diminue quand même depuis 4 ans en France.
Je ne dirais pas, nous n'avons pas de certitude là-dessus. On peut dire que certaines politiques ont eu un léger effet, on ne peut pas dire que ce soit pour ça. D'ailleurs, vous pourriez très bien dire, comme les Français veulent des enfants du fait du trauma historique dont on a parlé tout à l'heure, ils demandent dans un État démocratique à avoir des politiques familiale très généreuse. Par exemple, donc l'effet causal, il n'est pas facile à identifier.
En l'occurrence, selon l'OCDE, ce seraient les investissements dans la petite enfance qui auraient le plus d'influence sur la fécondité.
Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les pays dans lesquels il y a plus de politiques d'articulation et familiale du professionnel, c'est-à-dire ceux qui permettent aux femmes qui ont des enfants de travailler, eh bien, sont les pays dans lesquels le taux de fertilité est le plus soutenu parce que aujourd'hui, les femmes sont émancipées économiquement et elles s'éduquent et elles ont envie d'avoir une carrière. Et si on leur demande de faire le choix, comme c'est le cas en Allemagne, eh bien, elles ne font pas d'enfants et elles ont leur carrière.
Thomas Baudin.
Oui, tout à fait. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que en fait, dans les années 60, les femmes se sont, comme vous dites, émancipées, et donc elles ont eu accès au marché du travail, et donc elles ont acquis des responsabilités, ce qui était extrêmement positif, mais elles ont fait face à une double peine, qui était que sur les institutions marché du travail, elles commençaient à aller vers l'égalité, tandis qu'au sein de la famille, ce mouvement-là, en fait, il a été très lent, et il ne s'est pas fait en un jour, il ne s'est toujours pas réalisé, ce qui fait qu'elles devaient assurer une charge très forte au sein de leur famille et très forte au sein du marché du travail. Et cette double peine fait que, eh bien, la fécondité a été très limitée et que les autres politiques, en fait, étaient assez inefficientes. Mmh. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un pays comme la Suède, justement, a eu conscience du problème, pardon, et en ayant conscience de ce problème, a proposé justement toute une gamme de politiques qui permettaient aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée. C'est un exemple qu'on retrouve aussi quand on compare l'ex-Allemagne de l'Ouest et l'ex-Allemagne de l'Est, où on impliquait beaucoup les femmes dans l'effort productif. C'était une règle d'être impliquée dans l'effort productif à l'Est, beaucoup moins à l'Ouest. Et on voit qu'aujourd'hui, ces différences-là persistent encore.
En Allemagne, dont vous parliez, Anne Périvier, le taux de natalité s'est élevé à 1,59 enfants par femme il y a 3 ans. C'était du jamais vu depuis 1973. Et c'est notamment lié aux politiques de construction de structures de garde d'enfants, mais peut-être aussi à un certain regard qui est en train d'évoluer, regard posé sur les femmes qui travaillent tout en ayant des enfants.
C'est ça qui est compliqué quand je parle d'effet causal. C'est-à-dire que l'Allemagne a fait beaucoup de réformes au début des années 2000, particulièrement sur l'accueil des jeunes enfants, mais ça c'est une injonction de l'Europe quand même, donc les pays sont censés quand même atteindre les objectifs fixés de ce point de vue-là. Mais aussi en termes de congé parental, par exemple l'Allemagne a mis un congé parental qui est beaucoup plus proche de ce qui est fait en Suède, avec ce pari-là qu'il faut que les femmes reviennent vite sur le marché du travail. Mais vous pourriez tout aussi bien dire que la société allemande avait décidé de voir différemment cette mère qui travaille. C'est vrai qu'on les appelle les mères corbeaux, donc c'est vrai que ça vous désincite un tout petit peu à avoir des enfants si vous souhaitez travailler. Donc il y a un vrai travail en profondeur sur les normes sociales et les normes éducatives qui est apparemment en marche en Allemagne. Mais voilà, vous dire qu'est-ce qu'il y a, c'est plutôt un effet d'aller-retour. Je pense qu'on peut pas vraiment dire que tout d'un coup quelque chose crée quelque chose. Par exemple, si vous prenez l'exemple de la France, c'est intéressant de voir qu'en France, le congé paternité qui ne dure que 11 jours...
Contre 8 semaines en Espagne.
Voilà, contre 8 semaines bientôt en Espagne, dont une partie obligatoire en Espagne, au Portugal. Enfin, vous avez des pays extrêmement novateurs de ce point de vue-là. Et qu'en France, on rechigne à vouloir discuter de le rendre obligatoire ou pas. Donc, j'ai envie de dire, on est quand même... La maturité en France de ce point de vue-là est quand même pas du tout au niveau de ce qui est fait en Islande. Donc, je ne vois pas... On ne pourrait pas importer une politique publique en se disant qu'on arriverait à obtenir les mêmes résultats. Donc, l'aller-retour est assez compliqué.
Thomas Baudin.
Rapidement, sur le congé paternité, on voit la même réticence en Allemagne. En Allemagne, on a rendu congé paternité très généreux et on voit bien que les pères allemands ne prennent pas un congé paternité et rechignent complètement à le prendre, à même prendre un seul jour d'arrêt. Donc on voit bien qu'il y a là derrière des réticences sociales, des réticences culturelles à...
Et juste pour dire une étude très intéressante qui a été publiée récemment sur une évaluation du congé paternité en Espagne qui est de 2 semaines, et ils se sont rendus compte, alors c'est vrai que c'est assez étonnant parce que 2 semaines c'est pas beaucoup, mais le papier montre par une analyse de double différence, il montre que ça a eu un effet négatif sur la fertilité, c'est-à-dire qu'en fait les hommes, une fois qu'ils s'occupent de leurs enfants, peut-être qu'ils disent qu'ils en veulent pas un troisième ou un deuxième parce que finalement c'est beaucoup de travail.
Potentiellement une politique contre-productive si on veut favoriser la natalité. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que peut-être le fait d'aider de plus en plus les femmes à concilier vie professionnelle et vie privée, c'est ce qui explique ce constat que l'on fait désormais dans les pays développés, ce constat qui est que plus les femmes travaillent, plus elles ont d'enfants. C'est ce qu'on constate aujourd'hui, Hélène Périvier ?
Oui, c'est ce qu'on constate, en tout cas, alors avec quelques nuances quand même, néanmoins, on pourrait prendre le cas de la France, parce qu'encore une fois, c'est pas monolithique. Vous voyez, en France, il y a aussi des politiques publiques qui accompagnent la présence d'enfants pour les familles pauvres et très défavorisées. Donc il y a aussi... toutes ces politiques-là qui permettent aussi aux gens d'avoir les enfants, le nombre d'enfants qu'ils souhaitent, parce que c'est quand même ça l'objectif d'une politique familiale. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que de façon globale, on peut dire qu'aujourd'hui la tendance c'est permettre aux femmes qui travaillent de pouvoir avoir des enfants.
Et peut-être aussi parce que pour un certain nombre de femmes, c'est moins risqué d'avoir un enfant en cas de rupture si on est indépendant sur le plan économique.
Oui, même si encore une fois, on voit que les ruptures, au moment des ruptures de couple, c'est quand même les femmes qui ont une perte de niveau de vie beaucoup plus importante que celle des hommes, parce que comme ça a été dit, elles ont quand même un investissement plus fort dans la famille. Donc elles peuvent travailler, mais travailler à mi-temps. Donc il y a quand même un problème, effectivement, de vase communicant entre le temps qui est consacré à la famille et celui qui est consacré au marché du travail, avec un sous-investissement des pères dans la sphère familiale.
La décision d'avoir un ou non un enfant dépend aussi de la structure du marché du travail, Thomas Baudin, de la facilité ou non de pouvoir avoir un travail à temps partiel, par exemple, ce qui est beaucoup le cas en Allemagne.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que justement, le fait d'avoir une espèce de pénalité et de devoir en passer par le temps partiel quand on a un enfant, ça va être un frein à la fécondité beaucoup plus qu'un incitant. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir justement la possibilité de travailler en ayant des enfants. Et là, les investissements qui doivent être consentis sont des investissements dans les infrastructures publiques, les infrastructures de garde des enfants, les crèches, mais également les nourrices, les assistantes maternelles. C'est essentiel.
It's our first.
Yeah, I got that.
How about you?
Four at home, two on the way.
Oh, big family. You're so blessed. I just can't imagine anything better than being a mommy.
Really?
I mean, I know it's a lot of work, but luckily, my husband plans to be really hands-on.
Yeah, that's not gonna happen.
Pardon?
Oh, he'll be there at first, maybe even change a diaper or two until the novelty wears off, but those 4 a.m. feedings he said he'd help out with, forget it.
You know, most women say this is the greatest experience of their life.
Most women are liars. My mother was a liar, and her mother was a liar, and your mother is a liar. It's a lie. Every generation tells the next so they can get grandchildren.
Please stop talking to me.
Un extrait de la saison 6 de Desperate Housewives. Lynette Scavo, mère de 4 enfants et enceinte de jumeaux, est tout simplement en train de détruire les illusions d'une jeune femme qui attend avec béatitude son premier enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Hélène Périvier, de la double responsabilité des mères qui sont effectivement de plus en plus nombreuses à travailler, comme on l'a dit, mais qui assument encore la majeure partie des tâches domestiques?
Bah, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que il y a encore un gros challenge à relever de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen absolument d'avoir un investissement égal des pères dans la famille si on veut revenir sur les inégalités professionnelles. Parce que là, on est arrivé un peu au bout du modèle. Donc il y a, comme ça a été dit, toute la question de la socialisation de la garde de l'enfant dans des crèches ou dans des structures extérieures. Alors ça, ça a un impact parce que ça réduit le volume de travail. Alors évidemment, il y a aussi du temps agréable qu'on passe avec ses enfants, ne l'oublions pas. D'ailleurs, c'est important parce que les hommes ont un peu augmenté leur temps, le temps qu'ils consacrent à leurs enfants, mais les femmes aussi, parce que les gens ont envie de passer du temps avec leurs enfants. Par contre, il y a du temps dur, du temps un peu pénible, du temps un peu contraint, les emmener chez le pédiatre, etc. Ça, c'est toujours les femmes qui le font. Et donc là, il y a un vrai souci pour pouvoir vraiment que les hommes s'investissent dans cette sphère familiale. Il n'y aurait pas d'égalité professionnelle tant qu'on n'aura pas réussi à avoir cette égalité dans la famille.
Et alors, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire justement sur ce point, Thomas Bodin?
Alors, moi, j'ai l'impression qu'au-delà des pouvoirs publics, il y a une institution qui devrait s'adapter au nouveau rôle que les hommes sont prêts à prendre au sein de la famille, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à prendre ce rôle-là. Ce sont les entreprises, parce que à aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, pour un homme de dire à 16 heures il y a pédiatre et je m'en vais que pour une femme. C'est en fait la persistance des rôles genrés tels qu'ils ont existé depuis des siècles, en fait. J'ai l'impression qu'une partie de la solution viendrait des entreprises qui devraient aussi garantir aux hommes de ne pas être sanctionnés, entre guillemets, de leur investissement paternel.
Peut-être qu'il s'agit aussi, pour les hommes comme pour les femmes, de courir le risque d'être ralenti dans sa carrière en partant plus tôt, Hélène Périvier.
Oui, alors je serais quand même un peu nuancée, parce que ça dépend aussi beaucoup de la classe sociale et du niveau d'éducation. Je pense qu'un homme très éduqué peut parfaitement dire, et même peut-être certainement se prévaloir de « moi, j'emmène mon enfant à la crèche où je vais le chercher ». D'ailleurs, les pères emmènent, déposent les enfants, mais ne vont pas les chercher, puisque la contrainte, elle est plutôt à 18h, elle n'est pas tellement à 9h. Mais donc je pense qu'il y a aussi un effet classe sociale avec des normes aussi qui sont différentes selon le niveau d'éducation en matière de genre. Donc ce qui peut être fait, c'est clairement on ne coupera pas une forme d'obligation, le congé maternité est en partie obligatoire, on ne coupera pas une forme d'obligation des pères à occuper cette sphère qui est celle de la famille, et donc à une renégociation, parce que c'est par cette voie-là qu'on aura un effet de transformation qu'on n'a pas avec les crèches. Les crèches, ça réduit le volume, mais ça ne transforme pas la négociation dans les couples.
Et ce qu'on entendait aussi dans cet extrait de Desperate Housewives, c'est que le discours peut-être sur l'épanouissement dans la maternité est de plus en plus déconstruit, avec de plus en plus de femmes qui assument aujourd'hui de ne pas vouloir d'enfants, Thomas Bodin, alors que c'était encore très mal accepté socialement, que ça l'est encore beaucoup, mais que cette question en tout cas arrive dans le débat public.
Tout à fait. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au cours du XXe siècle, on a une proportion de plus en plus grande de femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Alors, On parlait de classe sociale, là c'est un phénomène vraiment de classe sociale. Ce sont des femmes très éduquées qui ont eu des opportunités économiques florissantes devant elles, qui ont repoussé l'âge à l'entrée à la maternité et qui finalement peuvent se dire à un moment, ben, c'est pas pour moi, ou qui au moment de peut-être vouloir un enfant ne sont pas en situation d'en avoir un. Mais très clairement là on fait face à un phénomène qui est très très marqué par la classe sociale.
Il y a des mouvements child-free, sans enfants, qui sont nés en particulier dans le monde anglo-saxon. On en voit aussi en France, Hélène Berryvier. Mais ce que l'on constate, c'est que pour la plupart des couples qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui, il s'agit quand même moins d'un choix que d'une difficulté biologique, et notamment liée au fait, comme le disait Thomas Bodin, que la maternité est de plus en plus retardée.
Oui, alors il y a quand même en France une norme très forte de la maternité. Quand même, on peut constater qu'on va trouver toujours ça anormal d'avoir un jeune couple qui décide de ne pas avoir d'enfants. Donc, c'est pas vrai dans les pays anglo-saxons, parce qu'il y a plus ce travail qui est fait autour de cette norme familiale. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a encore beaucoup de travail à faire dans la liberté que chacun a, ou chacune a, d'avoir ou pas des enfants. Donc, du côté des normes et de cette contrainte, c'est assez important. Donc...
On voit que ce mouvement, en tout cas, existe, qu'il a de plus en plus d'influence, ces mouvements child-free, comme je le disais. Mais il faut aussi prendre en compte les difficultés économiques et sociales qui continuent à peser tout de même sur le choix de l'enfant dans les pays développés, Thomas Bodin.
Tout à fait. Donc, on peut voir sur des études qu'on a pu mener dans les années 90 aux États-Unis, on recense quand même à peu près 2 à 2,5% de femmes qui n'ont pas d'enfants, non pas parce qu'elles n'en voulaient pas, mais parce qu'elles sont pauvres. Et quand on est pauvre, en fait, on est beaucoup plus soumis ou exposé à des facteurs d'infécondité. C'est par exemple la malnutrition, ce sont les addictions. On a aussi moins de moyens pour avoir recours à la procréation médicalement assistée. Et ce phénomène-là, on se dit 2% d'une population, c'est peut-être pas beaucoup. Quand on s'en va au Mali ou au Cameroun, par exemple, on retrouve des taux autour de 16% pour le Mali. Et donc là, il se pose un vrai problème public.
Hélène Berryvier.
Oui, il y a un autre phénomène qui est important, alors, cette fois-ci pour les femmes plus éduquées, c'est aussi ne pas avoir trouvé le partenaire idéal, donc pour pouvoir avoir un enfant. Donc on repousse parce qu'on n'est pas en couple, la mise en couple se fait plus tardivement. Donc il y a, et ça c'est intéressant de voir que certaines grandes entreprises, Apple et Facebook par exemple, proposent de couvrir le coût de la congélation de l'ovocyte, des ovocytes de leurs employés, dans cette perspective de pouvoir choisir, d'élargir les choix, ce qui peut aussi être une forme d'oppression au sein de l'entreprise. Et là, on se pose vraiment la question de quel est le rôle de chaque institution. C'est peut-être pas sûr que ce soit à l'entreprise privée de se préoccuper, mais peut-être plus du point de vue des politiques publiques.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un calme trompeur en Équateur. Après 12 jours de violentes manifestations, le président Moreno maintient finalement les subventions au carburant et calme la rue, mais il fragilise les relations de l'Équateur avec le FMI.
Oui, c'est bien la fin du blocage du pays avec un accord hier avec la principale organisation indigène impliquée. Le président ne supprimera pas les subventions au carburant comme il l'avait annoncé par décret au début du mois. Une commission sera chargée d'étudier de nouvelles mesures, mais l'équilibre est délicat puisque la suppression de ces subventions était une condition d'un prêt du FMI de 4 milliards 200 millions de dollars conclu en mars, le FMI considérant que ces subventions pesaient trop avec 1,3 milliard par an sur le budget équatorien. Mais dans un pays où 65% des pauvres sont indigènes, eh bien la suppression de ces subventions avait aussi entraîné une flambée des prix, notamment de l'essence. La mobilisation massive a contraint donc le président Moreno à reculer. Mais entre la rue et les exigences du FMI, la voie est assez étroite. Écoutez ce qu'en disait Jean-François Ponceau. Il est professeur de sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes et spécialiste de l'Équateur.
Là, à mon sens, par rapport à l'accord signé avec le FMI, il y a deux possibilités. Soit l'accord du FMI est maintenu, mais il faut trouver ce 1,3 milliard par an de recettes. Donc ça veut dire par exemple qu'il faut diminuer les avantages fiscaux qui ont été accordés dans le cadre de cette réforme aux exportateurs de bananes par exemple. Donc on voit la première option risque d'entraîner des mécontentements chez d'autres catégories de la population. L'autre option, c'est l'option de la renégociation avec le FMI en disant bon voilà, il y a un problème de effectivement un soulèvement social qui entraîne le fait qu'on doit rayer 1,3 milliard de dollars de recettes par an. C'est pas exclu à mon sens parce que il y a une nouvelle présidente à la direction du FMI, Kristalina Georgieva. Donc il est possible qu'il y ait une nouvelle gouvernance ou une nouvelle doctrine qui se met en place, même si je ne suis pas très optimiste là-dessus. Et puis d'autre part, il y a quand même eu de la part du FMI, des marchés financiers internationaux ou de pays comme les États-Unis, véritablement une sous-estimation la capacité des peuples d'Amérique latine à soulever face à des mesures d'austérité aussi radicales. Et peut-être qu'il y aura un recul par rapport au plan d'ajustement qui a été défini préalablement.
Un consensus précaire, d'autant que la deuxième partie des exigences du FMI tient toujours, une réforme fiscale et une réforme du marché du travail, Xavier.
Oui, c'est celle qui doit notamment ramener de 30 à 15 le nombre de jours de congés annuels des fonctionnaires, ce qui n'est pas sans risque social, alors que plusieurs gouvernements équatoriens ont été renversés par soulèvements sociaux. Alors le FMI en tiendra-t-il compte? C'est important, d'autant que se pose aussi en arrière-plan l'iceberg de l'Argentine avec un prêt, là, 10 fois plus important que pour l'Équateur. Excusez-moi, là, c'est 57 milliards de dollars.
On passe au bref avant d'en venir au Nobel. Peut-être un accord commercial à minima entre la Chine et les États-Unis. En tout cas, pour l'instant, une trêve dans les hostilités.
Et le feuilleton continue avec la Maison-Blanche qui a annoncé vendredi un accord de première partie de phase 1, principalement sur des produits agricoles pour 40 à 50 milliards de dollars. En échange, Washington renonce à augmenter ses taxes de 25 à 30% sur les 250 milliards de dollars d'importations chinoises. Et Trump déclare ainsi que les agriculteurs américains ont touché, je cite, le gros lot, mais on apprend aujourd'hui que Pékin demande des discussions supplémentaires, signature peut-être au sommet de la PEC au Chili le 14 novembre.
Et on finit donc avec le prix de la Banque de Suède qui a été décerné ce matin. Ils sont trois à remporter ce qu'on appelle le prix Nobel de l'économie, deux Américains et la Française Esther Duflo.
Esther Duflo avec son collègue professeur au MIT Abhijit Banerjee et Michael Kremer de Harvard pour, je cite, leur nouvelle approche pour réduire la pauvreté dans le monde, concrètement en expérimentant localement et sur le terrain avec des ONG, les formes d'action les plus efficaces. Par exemple, pour Duflo et Banerjee, montrer l'impact des médicaments gratuits et des avantages en nature pour obtenir des taux de vaccination infantile record en Inde. Ou pour Michael Kremer au Kenya, montrer que l'augmentation des moyens seuls ne suffit pas à augmenter le niveau d'éducation dans les pays en développement. Une reconnaissance donc pour cette économie du développement pas récompensée depuis 50 ans, vous en parliez la semaine dernière, Tiffaine, et pour les très très nombreuses femmes que ce prix va inspirer. Espérez sur Twitter Esther Duflo qui devient aussi le plus jeune prix Nobel d'économie de l'histoire.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Une réaction peut-être en plateau, Hélène Périvier, que vous inspire cette reconnaissance des travaux d'Esther Duflo, de Michael Kremer, d'Abhijit Banerjee par la Banque de Suède?
Ah oui, c'est d'abord une reconnaissance de l'économie expérimentale, hein, donc ce qui est un grand tournant dans la discipline qui a longtemps été théorique pour des raisons d'accès aux données aussi, hein, mais là en l'occurrence on crée ses propres données puisqu'on va faire ses expériences, ce qui permet à la fois d'avoir une approche pragmatique des politiques qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qui marche vraiment sur le terrain. Après, le problème c'est que c'est difficilement à chaque fois généralisable, c'est toujours des approches qui vont permettre localement dans ce contexte culturel là, dans ce pays, et eh bien par exemple il y avait cette étude sur payer l'uniforme des élèves qui vont à l'école au Kenya, ça permet d'augmenter le taux de scolarisation au lycée des filles et des garçons. Voilà, c'est ce genre de choses. Et du coup, c'est une approche assez de terrain de l'économie.
Et c'est une mise en valeur des travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Thomas Bonin, qui est tout de même un bon signal.
Tout à fait. Moi, j'avoue être très enthousiaste à entendre donc ces trois noms sortir pour le Nobel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait l'économie avait déjà recours à l'économie expérimentale, donc on était dans les laboratoires, on essayait de tester des résultats et des prédictions théoriques. Ce qu'ont fait ces trois personnes avec d'autres, c'est de faire sortir l'économie expérimentale du laboratoire pour l'amener sur les terrains d'études, alors évidemment de manière très spécialisée sur des questions très ponctuelles, mais on a pu mesurer beaucoup plus finement quelles politiques de lutte contre la pauvreté fonctionnent, lesquelles fonctionnent beaucoup moins bien, et donc ça montre un peu aussi comment les économistes peuvent participer au bien commun puisque les politiques proposées sont très efficaces.
I'm
Anna Mashoual Yaman, des trois sœurs du groupe israélien Awa. Merci beaucoup Thomas Baudin et Hélène Périvier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, cap sur le marché de l'amour et la fabrique économique du couple, en compagnie de Céline Bessière et Pierre-André Chiapori. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.